La première base électorale, c'est la base ethnique. Mais il est évident que ça ne suffit pas pour pouvoir gagner les élections de façon globale, puisqu'il y a quand même les couches urbaines et les couches rurales de la population qui peuvent intervenir dans l'appréciation du candidat. Les couches urbaines pauvres ont aussi besoin d'un porte-parole, quelqu'un qui tienne compte de leurs revendications et aussi qui promette d'améliorer la santé de la population, d'améliorer le bien-être global.
En parlant des ethnies, ça a conduit à pas mal de violences ces derniers temps. On parle de 70 morts. Est-ce que ça, c'est quelque chose de récurrent ou c'est la violence, c'est un peu une nouveauté?
Le Kenya sort du monopartisme depuis 1991. À cela, les contraintes à la fois internes liées aux forces politiques, à la rôle de la société civile et surtout important le rôle de l'épiscopat, enfin, de manière générale, tout ce qui est mouvement religieux. Cela a été quelque chose qui a permis de pousser aux élections démocratiques, bien sûr sous la coupe de extérieure des pressions de l'ONU, de la Banque mondiale et du FMI, puisque tous ces pays vont toujours emprunter au niveau international. Mais la violence, je crois, elle est d'abord sociale, hein, liée aux fortes inégalités. Et bien sûr, les bras armés qui sont utilisés, c'est d'abord dans le couche les plus défavorisés. Et il est évident que l'ethnie ici sert d'instrument de mobilisation, de cause, mais pas de cause de départ.
D'ailleurs, ces violences ont été dénoncées par la conférence épiscopale qui dénonce aussi l'utilisation ou disons le plébiscite de la violence pour des gains politiques. Hein. Et je voulais vous demander, évidemment la conférence épiscopale prône la tolérance, le respect, une civilisation de l'amour. Oui. Quel est le rôle ou en tout cas quel est le poids de l'Église au Kenya justement dans ses perspectives électorales ?
Il est évident que pour le Kenya, l'appel aux élections pacifiques par l'Église, c'est quelque chose de positif qui peut influencer effectivement le comportement notamment des croyants et puis des électeurs.
En même temps, l'Église n'a pas pris parti pour un candidat.
Mais non, justement. C'est ça, un des paradoxes, c'est que c'est l'Église qui est sollicitée pour jouer le rôle de médiateur impartial. Et c'est pour cela que même s'il y a des tensions au sein des églises entre les populations, les croyants et puis le sommet, mais il y a un appel unanime d'assurer une neutralité bienveillante, ce que je peux appeler une neutralité démocratique.
Les dirigeants religieux, évidemment, qui soutiennent la démocratie. Le Kenya est quand même cité à titre d'exemple très souvent dans cette région d'Afrique. Je voulais vous demander, est-ce qu'on peut vraiment parler de démocratie, d'exemple de démocratie, ou est-ce qu'on peut parler simplement de démocratie en chemin, on va dire?
Alors, moi je parlais plutôt de processus de démocratisation. Et c'est une gageure que de pouvoir organiser ces élections. Le rôle de toutes les forces, sociales, locales, cela est une des conditions. La seconde, c'est qu'il y a aussi la présence de l'Union africaine et puis de l'exigence de la communauté internationale. Le Kenya est l'un des 4 pays qui abrite l'ONU, enfin un organisme des Nations Unies. Par conséquent, il y a une sorte d'observation des puissances occidentales, internationales, notamment des États-Unis et de l'Angleterre, par rapport à ce pays. Et je crois que la présence des organismes internationaux, des ONG internationales pour participer à la surveillance des élections me semble un atout. Et pour moi, je dans l'ensemble, c'est un pays qui peut suggérer un léger optimisme.